Radio MDM et la dérobade 17h-19h du lundi au vendredi en immersion avec un ancien ministre. Azouz Begag était la semaine dernière à Mont-de-Marsan, l'ex-ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 sous Jacques Chirac, qui était en effet l'invité des AOC du Café Musique, AOC pour apéro d'origine contrôlée, sur la thématique l'école de la République, égalité des chances, l'ascenseur social est-il en panne ? Une question abordée sur deux jours, à la salle du Petit Bonheur ou à la veille, la librairie Caractère, dans le cadre du festival Migre en scène, proposé par la CIMAD ou encore auprès d'élèves du lycée Vléric ou du collège Victor Duruy. C'est précisément dans ce dernier établissement que nous avons retrouvé l'homme politique et écrivain, auteur en 1986 de l'autobiographie Le Gaune du Chaba, adapté au cinéma en 1997 et présenté en amont au scolaire, dans lequel celui qui sera affublé à l'époque d'un très réducteur modèle d'intégration évoque son enfance dans le bidonville lyonnais du Chaba, donc peuplé d'immigrants algériens. Azouz Begag, un homme aussi loquace qu'occupé, seule possibilité d'approcher l'ex-protégé de Dominique de Villepin, celle de venir sur scène devant une centaine de collégiens, micro en main. Alors difficile de faire plus spontané, voilà ce que ça donne.
Donc là, c'est en live, c'est sans trucage, sans filet. On n'est pas en direct, on nous entend pas à la radio. Hein. C'est enregistré, et puis après, je vais faire du montage derrière. Donc, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez applaudir sur ça. Azouz Begag, s'il vous plaît. Ça fait un petit peu de Jamel Comedy Club comme ça, mais... Monsieur Begag, il y a l'écrivain, il y a le politique, vous avez eu 10 000 vies. C'est lequel Azouz Begag qui est là aujourd'hui ? Est-ce que c'est le fils de France ? Est-ce que je peux le dire comme
oui,
ça ?
Oui, je crois, je suis la France, en fait. Je suis ce que doit être la France, c'est-à-dire permettre à tous les enfants nés à Mont-de-Marsan ou dans les bidonvilles lyonnais ou parisiens, grâce à l'éducation nationale, de pouvoir monter dans l'ascenseur social et de pouvoir, s'il le souhaite, cet enfant, accéder au plus haut sommet de l'État, passer du statut de auriculaire au statut de major. C'est-à-dire changer de position, changer de place, et grâce à la maîtrise de la langue française, des accords du complément d'objet direct et de la maîtrise du passé simple, arriver à devenir, pourquoi pas, comme en 2008 aux États-Unis avec le président Barack Obama, sortir d'un bidonville, ou alors comme le président Lula au Brésil, et pouvoir devenir président de la République. C'est ça la France. C'est pour ça que j'ai oublié de dire aux élèves tout à l'heure, je suis né, moi, en 1789. Je suis né en 1789 parce que là, c'est à ce moment-là que le peuple de Paris a éliminé les rois, éliminé le piston, éliminé la corruption. Ils appelaient ça, les gens, l'abolition des privilèges. L'égalité des chances, c'est ça. C'est faire en sorte que le parcours de chacun soit débarrassé des privilèges que se sont octroyés au cours des générations les uns et les autres, généralement les plus riches et les plus puissants, et de pouvoir, pour les enfants de pauvres, accéder à l'éducation nationale et faire de sa vie ce qu'il veut. C'est pour ça que vraiment je suis content d'incarner quelque chose de la France qui est très joli, c'est l'égalité des chances, qui donne accès, bien entendu, vous l'avez compris, à la liberté. À la liberté. J'aime beaucoup ce mot. Il y a beaucoup de pays où il n'existe pas ce mot. Hein. Vous vous en rendrez compte. Et là, on est quand même dans un pays où la liberté et l'égalité sont les deux pieds de la République. Bon, il y en a un qui est blessé là depuis quelque temps, c'est celui de la fraternité, parce qu'il est en danger. Mais les deux autres tiennent encore à peu près le coup. Je suis ici ce matin à Mont-de-Marsan devant les élèves pour raconter l'histoire de ce gamin qui est né en 1789, qui a surmonté toutes les épreuves pour pouvoir accéder à l'égalité et à la liberté. Merci de vos applaudissements.
Alors ce gamin justement, il y a des gens qui l'ont connu, j'en fais partie, entre 2005 et 2007. Je pensais à cette époque, je vous regardais, je vous découvrais, il y a la France qui vous découvrait en tant que ministre, et vous en avez pris plein la gueule, pour dire ce qui est. Je mettais à votre place, je me dis, il y a des gens pour qui vous êtes le rebeu de service, la caution intégration. Il y en a pour d'autres, avoir votre parcours politique, qui se disaient, bon, sa veste, elle doit craquer un peu. Peut-être même dans les quartiers où vous en avez pris de tous les côtés.
C'est normal, je suis un enfant de pauvre. Depuis quand les enfants de pauvres arrivent à traverser les épreuves et passer les écueils sans problème ? On est là pour se faire taper dessus. J'avais un ami qui s'appelait Martin Luther King. Et bien lui, pour avoir tenu des discours genre « I have a dream !» C'était un apôtre de la fraternité, de l'amour, des solidarités. Il a été flingué. J'en connais un autre, un fils de pauvre aussi, qui habitait, lui, en Afrique du Sud. Il luttait contre un poison qui s'appelait l'apartheid, entre noirs et blancs. Il a dit non. C'était un fils de pauvre. Pour avoir dit non, il a fait 25 ans de prison. Il s'appelait Nelson Mandela. J'en connais une autre qui habitait dans l'Alabama, dans un état fabricant de producteurs de coton au sud des États-Unis, qui pratiquait la ségrégation entre noirs et blancs. Et qui un jour, à sortie du boulot dans les champs de coton, elle est montée dans un bus pour rentrer chez elle après une dure journée de labeur. Elle s'est assise au premier rang, le chauffeur lui dit « Madame !» Elle s'est retournée, elle a dit « Oui, vous ne pouvez pas rester à cette place. » « Mais pourquoi ?»« Elle s'est réservée aux blancs. » « Comment ça ?»« Oui, jusqu'à la place numéro 12, c'est réservé aux blancs. Et vous, vous êtes noir, s'il vous plaît, vous vous levez et vous allez au fond là-bas. » Elle a dit non, elle en a pris plein la gueule, comme vous venez de le dire avec moi aussi, en 2005-2007. Tous les enfants de pauvres qui disent non et qui ne veulent plus être les petits pouces des mains, c'est normal qu'ils en prennent plein la gueule. Mais il arrive un temps où l'Afrique du Sud est libérée du joug de l'apartheid. Il arrive un temps où celui qui vient de faire 25 ans de prison pour pouvoir dire non à l'apartheid devient président de l'Afrique du Sud. Donc chaque chose en son temps. Si j'avais été un gentil mouton qui acceptait d'être caressé dans le dos par Nicolas Sarkozy et toute sa bande de voyous, parce que ce sont des voyous, qui faisaient passer les jeunes des banlieues pour des racailles qu'il fallait carcériser.
Ce qui n'a pas empêché, si je me puis permettre, de faire entrer Ramayad ou Rachida Dati.
Oui, voilà, qui ont joué le rôle qu'on attendait d'elle. Mais aujourd'hui, c'est lui, cet ancien président de la République française, qui toutes les semaines passe au tribunal, parce qu'il a des affaires au derrière, qui, je l'espère, je crois en la justice française, va le conduire dans les geôles, à la Bastille, va être embastillé. Voilà, c'est ça l'histoire.
C'est un éternel recommencement.
Oui, c'est un éternel recommencement.
Ça peut avoir des projections inquiétantes.
Le racisme revient encore plus fort qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc l'histoire est un éternel recommencement. Et des jeunes qui sont là devant moi seront les défendeurs des belles valeurs françaises humanistes et universelles que je suis venu défendre aujourd'hui. Et l'histoire continuera ainsi. Mais oui, j'ai servi de bouclier à tous les gens qui, au pouvoir, veulent garder le pouvoir de Levallois-Perret à Neuilly-sur-Seine. Et nous allons essayer de le reprendre. C'est pour ça, chers amis, que je suis venu ici à Memphis, Tennessee, pour dire...
Memphis de Marsan.
Pour dire ce slogan, « Avant de me lire, il faut me lire ». Vous avez compris ?
Oui.
Avant de me lire, il faut me lire. Avant d'être votre élu, je veux être lu. Parce que participer à la démocratie en politique, c'est d'abord avoir en face de toi des citoyens intelligents, convaincus, qui lisent le programme et qui choisissent leurs candidats en fonction de ce qu'ils ont lu. Donc lire et lire, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est bien dit ? En tout cas...
C'est laquelle votre vie préférée ? Je ne vous ai pas demandé.
Non,
vous allez me dire c'est celle de maintenant.
Non, pas du tout. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est un puzzle. Et votre vie et la mienne et la leur, ce sera une suite de rencontres, l'ai-je dit ou pas ? Je l'ai dit. Ce ne sont que des rencontres, moi. Et je pense qu'à la fin d'une vie, quand on pose par terre tous les morceaux de vie qu'on a eu, quand on a posé tout par terre, on voit recomposer l'homme ou la femme que nous avons été pendant 60, 70 ou 80 ans. Mais pendant qu'on est en train de construire ce que les Anglais appellent « human being », celui qui est en train de devenir humain, eh bien, on est en construction. Il n'y a pas un morceau que je préfère. Tous les morceaux du puzzle servent à assembler la personne que je dois devenir à la fin de ma vie. C'est bien dit, ça ?
Belle idée.
Voilà.
Azouz Begag, s'il vous plaît. C'était jeudi dernier au collège Victor Duruy, la visite d'Azouz Begag dans le cadre des apéros d'origine contrôlée AOC du Café Musique, l'ex-ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007 sous Dominique de Villepin, qui a pu également évoquer son dernier roman, L'Arbre ou la Maison, le récit du voyage en Algérie à Sétif, de deux frères à la mort de leur mère dans la maison de leur enfance, à retrouver aux éditions Julliard.